On va tout de suite passer ouvrir la première séquence de notre journée qui en compte trois. Les services écologiques peuvent-ils répondre aux défis du changement climatique et de la ville durable? Et c'est Luc Abadie. Luc Abadie qui est écologue, professeur à l'UPMC, à Sorbonne Université, qui est directeur du laboratoire BioEMCO, qui va introduire cette première séquence. Luc, c'est un quart d'heure l'introduction, pas plus.
Oui, on va essayer.
Le temps d'ouvrir le document. Que l'ordinateur se réveille.
C'est moi qui commande.
C'est l'ordinateur qui doit se réveiller. Il en est où? Tout a été rebranché.
Il ne se réveille pas pour l'instant.
Il se réveille pas?
Non.
Peut-être appuyer sur un bouton magique.
Peut-être. Attends. Voilà. C'est le folklore habituel.
C'est les habituels problèmes des utilisateurs de Mac et de PC. Et voilà, merci à Léna qui maîtrise tous les ordinateurs disponibles sur la planète.
Pour faire par contre plein écran.
Pour faire plein écran, c'est un petit truc là. Ouais, c'est pas les deux flèches élargies là en haut à la. Voilà.
Voilà, donc l'ordinateur est réveillé, moi aussi. Donc on va
pouvoir... Et donc tu as perdu 2 minutes sur ta présentation, donc il va falloir accélérer, Luc.
Bien, je vais essayer donc d'accélérer. Donc d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité à donner un point de vue d'écologue. Donc je suis un chercheur en écologie et j'ai donc une vision effectivement d'écologue sur la question de la ville et je vais essayer donc de vous le présenter. Et mon point de départ... En gros, ça va être déjà de constater qu'on est dans une période un petit peu particulière en ce qui concerne les conceptions qu'on peut avoir sur les rapports entre l'homme et la nature. Il y a longtemps qu'on se questionne sur les rapports entre l'homme et la nature. Ce n'est pas nouveau, mais pour moi quand même, qui commence à avoir un certain recul sur ces questions, il s'est passé ces dernières années des choses absolument fondamentales qui sont symbolisées, je crois, par ce petit schéma que... beaucoup d'entre vous ont déjà dû voir, qui est extrait de ce gros rapport qui a été publié en 2005 par les Nations Unies sur finalement une évaluation des écosystèmes. C'est la première fois qu'on avait une étude d'ampleur planétaire sur la situation des écosystèmes. Et c'est à ce moment-là qu'a été popularisée une notion qui existait déjà depuis quelques années, qui est la notion de service écosystémique. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail... De la liste des services écosystémiques, puisque finalement, on va aborder ça d'un peu plus près dans les interventions qui suivent. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans ce schéma, en fait, c'est les petites flèches qui unissent les deux grands rectangles. À gauche, vous avez la représentation de ces services, bon, les histoires de régulation climatique, du cycle de l'eau, etc. Donc finalement, un ensemble de processus physiques, chimiques et biologiques dont on a reconnu qu'ils avaient une certaine importance au minimum en termes de ressources et en termes de contraintes pour les êtres humains. Et puis vous avez à droite du schéma les constituants, la liste des constituants du bien-être humain. Et on a dans ces constituants du bien-être humain, donc une vision évidemment un petit peu simplifiée, des choses évidemment sur les besoins matériels pour avoir une bonne vie, mais aussi sur la sécurité, sur la capacité des individus et des sociétés à faire des choix librement décidés et librement assumés. Et vous voyez qu'on a des flèches qui, d'ailleurs, pour aller dans les deux sens, c'est peut-être un peu la faiblesse de ce schéma, mais qui disent pour la première fois, finalement, qu'au fond, ce qu'on pourrait appeler la qualité de vie, la santé physique, la santé mentale, etc., et le bien-être des sociétés est directement dépendant de processus naturels. Et ça, je pense que c'est une révolution absolue. C'est la reconnaissance du fait que les sociétés humaines dépendent effectivement du bon fonctionnement de la nature. Évidemment, cette reconnaissance, elle n'arrive pas à ce moment-là par hasard. Elle arrive parce qu'effectivement, les scientifiques, après d'ailleurs les citoyens et les organisations non gouvernementales, ont pointé une dégradation très très forte de la qualité de notre environnement qui remet en cause nos modes de développement. Donc pour moi... ce schéma, c'est vraiment un point de départ de la pensée actuelle des rapports homme-nature, hein, qui conduit à une remise en cause de nos trajectoires de développement. Et la question de la nature en ville, pour moi, c'est une illustration de cette remise en cause de nos trajectoires de développement. Il ne s'agit pas de faire de la nature en ville parce que c'est sympa ou je ne sais quoi. Il s'agit de faire de la nature en ville parce que c'est une nécessité si on veut rectifier les dérives actuelles de nos modes de développement. C'est cette notion de service écosystémique, donc, que je n'ai pas défini, mais qui est en gros finalement la version sociale du fonctionnement spontané, on va dire, des systèmes écologiques. C'est à la fois, donc, finalement, un outil conceptuel, on va le voir, et un outil très pratique que l'on peut mettre en œuvre pour, finalement, donner du contenu à cette idée de reconstruction d'un développement qui soit basé sur ce que certains appellent la coévolution homme-nature. C'est une expression qu'on n'aurait pas osé peut-être sortir encore il y a 10 ans, peut-être même 5 ans, de peur d'être ridicule. C'est aujourd'hui un concept qui est en train de se développer et qui est à la base de la réflexion et qui, pour moi, est centrale dans la manière, pour un écologue en tout cas, de voir cette question de la nature en ville. Le deuxième fait, ça a été très très brièvement dit juste avant, c'est qu'évidemment, nous sommes bien effectivement dans le siècle de l'urbain. Pour la première fois, on le sait, la moitié de la population mondiale vit dans des villes, ça s'est jamais vu. Donc on a un phénomène, là aussi, qui est très ancien, qui remonte à des milliers d'années en arrière, mais qui est absolument nouveau en termes d'ampleur et de modalité. Il est sorti il y a quelques temps, cette année, en 2012, donc très très récemment, une étude qui a été publiée par Karen Seto, de l'université d'Yale, avec ses collaborateurs, qui a essayé de modéliser, de voir quelle va être l'évolution de la ville à court terme d'ici 2030. Donc j'ai résumé un petit peu les données sur ce tableau. La grande donnée, évidemment, c'est que la population urbaine va continuer à augmenter très très vite. On va gagner d'ici 2030, c'est-à-dire il reste 20 ans, à peu près 1 milliard d'urbains supplémentaires. Donc on est toujours dans un phénomène qui se développe à un rythme extrêmement rapide. Et donc la question qui se pose et à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est de savoir finalement quel va être l'impact de cet environnement, de cette croissance encore de l'environnement urbain. Et l'étude de Seto est assez intéressante. Si on regarde la surface qui est couverte par la ville, aujourd'hui, alors d'ailleurs, entre nous soit dit, la définition de la ville, ça reste très flou, et donc le calcul de la surface occupée par les villes reste également extrêmement variable, il y a un facteur 10 sur les différentes estimations. Donc prenez le chiffre de 700 000 km² actuels comme étant vraiment un ordre de grandeur, il n'est absolument pas garanti. Mais finalement, ce n'est pas grand-chose. C'est 0,5% de la surface des continents. Ça passera en 2030 à 1,3% de la surface des continents. Donc on a envie de se dire que ce n'est pas très important. Et d'ailleurs, dans l'étude donnée par Karen Seto, il y a aussi des indications sur l'impact sur le cycle du carbone, par exemple. Pour étendre ces villes, on va évidemment changer la végétation. Il va y avoir un petit peu de déforestation, des choses comme ça. On va avoir, en gros, 1,4 milliard de tonnes de carbone supplémentaires émises vers l'atmosphère. C'est rien. Le flux actuel annuel, c'est 6 milliards. Donc on se dit, c'est négligeable. En termes de biodiversité, c'est pareil, il y aura un petit impact. Le développement de ces villes va se faire un petit peu aux dépens de hotspots de biodiversité. Mais ça reste assez marginal. Donc on se dit finalement que le phénomène urbain a un impact assez faible sur la nature. Sauf que, évidemment, c'est une vision qui est complètement fausse en termes de fonctionnement, puisque c'est une vision qui est liée finalement aux limites, on va dire, géographiques et administratives de la ville. Et bien entendu, on a un impact qui est beaucoup plus fort sur finalement l'ensemble des territoires. Et donc, la bonne pensée à développer, et ça, c'est naturel dans la bouche d'un écologue, c'est évidemment une pensée systémique. Nous savons que la ville est un système, c'est un système social, c'est un système économique, mais nous ne savons pas, ou peu, et c'est pas explicite en tout cas, que la ville est aussi un écosystème. Et donc, je voudrais m'étendre un tout petit peu sur cet aspect-là. C'est un écosystème, évidemment, à l'échelle locale. Donc, en ville, nous avons des êtres vivants. Il y a de la biodiversité, on en parle beaucoup. Il y a des cycles biogéochimiques. Il y a des conditions climatiques locales qui sont dépendantes des activités humaines localement. Il y a des sols qui sont de plus ou moins bonne qualité, etc. Bref, il y a toutes les composantes d'un véritable écosystème. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est de savoir comment cet écosystème urbain délivre finalement des services. Quels sont ces services? Comment on peut développer ces services? Mais avant de répondre à la question des services, les services, je vous rappelle finalement une définition rapide, c'est la version sociale en quelque sorte du fonctionnement des écosystèmes. quel est le fonctionnement de l'écosystème urbain. L'écosystème urbain, c'est un écosystème nouveau qui, on vient de le voir, occupe une place de plus en plus importante à la surface de la planète, mais c'est un écosystème sur lequel on ne connaît pas grand-chose. J'oserais dire en tant que scientifique qu'on connaît mieux le fonctionnement du fin fond de la forêt amazonienne que le fonctionnement de la ville en tant qu'écosystème, au sens un peu étroit du terme, c'est-à-dire les processus naturels, entre guillemets, qui sont à l'œuvre dans la forêt amazonienne. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui réellement du fonctionnement d'un arbre, des rues, en ville? Par rapport à ce qu'on sait du fonctionnement d'un arbre au fin fond de l'Amazonie, on ne sait pas grand-chose. On a une idée assez faible, finalement, des modes de nutrition d'un arbre en ville. D'où vient le carbone qui est assimilé par l'arbre? Quelle est la source d'eau, tout simplement, utilisée par un arbre? Par conséquent, quelle est peut-être la contribution d'un arbre, via l'évaporation, à une certaine régulation de la température, par exemple? Donc, un premier point, une première question qui est posée aux scientifiques, c'est vraiment de caractériser et de quantifier le fonctionnement de l'écosystème urbain, comme on l'a fait de la forêt tropicale, de la savane ou de n'importe quoi. Et ensuite, effectivement, le deuxième type de question qu'il va falloir se poser, toujours en termes de système, de vision systémique, c'est d'intégrer ça, évidemment, par rapport aux dimensions économiques, sociales et culturelles de la ville, et finalement de savoir qu'est-ce qu'on veut comme service au niveau d'une ville, quel prix on veut payer pour la mise en place de ces services, qu'est-ce qu'on peut piloter, qu'est-ce qu'on peut orienter comme fonctionnement de la ville qui va rendre finalement le système peut-être plus autonome, plus agréable et vivant. Donc il faut passer finalement à une vision de la ville comme un socio-écosystème, qui est un concept là aussi qui n'est pas nouveau, mais qui reste à expliciter. Ça passe par une phase de quantification, ça passe par une phase de conceptualisation. Il faut arriver à associer entre eux des phénomènes de nature très différente, c'est ce que fait l'écologie, entre des phénomènes physiques et biologiques, on fait ça de façon courante, mais là, il faut rajouter ces dimensions sociales et économiques qui ne sont pas simples à intégrer. Et donc, il y a un véritable défi intellectuel à relever, c'est extrêmement difficile à faire, ça va prendre du temps, mais c'est une nécessité absolue. Donc, premier niveau, il faut concevoir la ville comme un écosystème, localement, qui va donc délivrer des services locaux que l'on va chercher à optimiser, et comme ça a été dit avant, il ne s'agit pas simplement de rétablir un cycle de l'eau ou de réintroduire de la biodiversité pour bien faire. Il peut y avoir des effets négatifs de ces choses-là. Par exemple, si vous voulez installer de la végétation sur un toit pour des raisons d'isolation, de régulation thermique, etc., etc., vous pouvez également entraîner des difficultés, tout simplement en modifiant la composition chimique de l'eau, par exemple, qui va devenir impropre aux utilisations qu'on envisage aujourd'hui, où la surface qui va être végétalisée peut être vue comme quelque chose qui rentre en compétition avec la mise en place de panneaux solaires pour la fourniture d'énergie. Donc, il faut, comme ça a été dit avant, il faut avoir une vision, si possible objective, en tout cas intégrative, et admettre l'idée que la remise en place de services écosystémiques dans la ville, si on veut avoir des services, il faut vraiment avoir une bonne vision de ces fonctions et des impacts des fonctions de l'écosystème sur notre environnement. Donc finalement, l'idée aussi, c'est que la ville souvent était opposée à la nature, à la campagne, le monde rural. Je pense qu'il faudrait renoncer à cette opposition rurale-urbain. C'est d'ailleurs un mouvement qui est entamé. Il faut vraiment voir les choses comme un continuum. Et ce qui se pose pour, disons, les hypercentres urbains, c'est la question donc de la consommation de services écosystémiques. Aujourd'hui, la ville, elle est sous perfusion de ressources qui sont importées. Si on voit les choses à travers les frontières habituelles, en fait, la ville peut aussi devenir productrice de services écosystémiques. Et donc, l'enjeu, c'est de voir comment on peut optimiser les services qui sont possibles en ville et passer d'un statut de consommateur à un statut de producteur de services. Mais naturellement, il n'y a pas que l'échelle locale à prendre en compte dans ces services. Si on peut s'accorder sur l'idée qu'une ville, c'est un écosystème et que la bonne manière de voir les choses aujourd'hui, c'est de considérer la ville comme un écosystème, il faut aussi admettre que la ville est un écosystème dans un écosystème qui est plus large, qui est l'écosystème régional ou tout simplement l'écosystème planétaire. Et donc la question, en quelque sorte, qui se pose, comment on replace la ville dans le fonctionnement général d'une région ou de la planète, est une question également qui est extrêmement ouverte. Par exemple, la question de la biodiversité. Quand on fait des inventaires d'espèces dans des villes, c'est pas si pauvre que ça. Les villes, surtout si on prend en compte ce qu'on appelle le périurbain. Enfin, donc, voilà, on est sur un continuum. Donc, moi, je ne sais plus où sont les limites. Hein, mais voilà, si vous prenez la ville, l'hypercentre et le périurbain, même l'hypercentre, on a une diversité qui peut être relativement élevée en termes de nombre d'espèces. C'est évidemment pas le cas souvent sur les abondances, mais en termes de nombre d'espèces, il y a quelque chose de considérable. Mais comment cette diversité urbaine est-elle reliée à la diversité régionale et à la diversité générale ? Une ville, finalement, par son hétérogénéité, peut être vue comme quelque chose de très favorable à la biodiversité. L'environnement naturel, entre guillemets, il est hétérogène. Et c'est parce qu'il est hétérogène qu'il accueille une grande biodiversité. Donc la ville répond pas mal à ce critère-là. Mais la ville, c'est aussi une série... L'hétérogénéité, ça peut être aussi... C'est une série d'habitats, mais c'est aussi une série éventuellement d'obstacles à la dynamique de la biodiversité. Finalement, quel rôle vont jouer les villes dans la réponse de la biodiversité au changement climatique ? On sait que, avec les changements climatiques, l'enjeu, c'est d'avoir... Le grand enjeu pour les espèces, c'est la mobilité géographique, un des grands enjeux. La ville va-t-elle être un facilitateur, au contraire, un obstacle à la mobilité géographique des espèces ? La ville peut-elle devenir quelque chose qui facilite la réponse, on va dire, de la biodiversité aux changements climatiques, aux changements globaux en général ? Ça, ce sont des questions qui restent ouvertes et qui illustrent bien, je pense, la nécessité de replacer la ville en tant qu'écosystème, dans un écosystème plus large. Il ne peut pas y avoir de politique de la biodiversité locale qui ait un sens si on n'est pas capable de répondre à des questions scientifiques qui ne sont pas très claires aujourd'hui, qui est du rôle potentiel que peut jouer la ville dans la dynamique générale de la biodiversité et à quelles conditions elle peut jouer un rôle positif. La question de l'efficacité des ressources aussi, de l'usage des ressources. A priori, une ville peut être vue comme une bonne réponse à pas mal de problèmes environnementaux. La concentration des individus, par exemple en termes d'énergie ou d'approvisionnement en ressources, rend finalement les coûts et l'efficacité de l'usage de cette énergie, de ces ressources, meilleurs, mais meilleurs jusqu'à un certain point. Probablement, là encore, si on considère la ville comme un tout, y compris donc avec le périurbain, il y a une certaine géométrie, une certaine densité. Il doit y avoir des phénomènes de seuil en dessous duquel ou au-delà duquel on est bon ou pas bon en termes d'efficacité et d'insertion dans le système planétaire en général. Donc ça, ce sont des questions qui restent également, je pense, ouvertes. On a là également des problèmes d'identification, des relations qui existent entre la ville et le reste du monde, des questions de géométrie, des questions de densité, des questions d'aménagement du territoire. Et donc l'idée, c'est que cette question de la biodiversité, cette question finalement du fonctionnement de la ville en tant qu'écosystème, doit devenir un a priori sur la réflexion. Par rapport à la ville, au même titre qu'on a des a priori sur la dimension sociale ou sur la dimension économique. Ça doit être un élément, c'est pas un plus, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est à la base de la réflexion qu'on doit avoir aujourd'hui sur les villes. Et donc finalement, un des enjeux aussi peut-être de la journée, c'est de voir comment on peut reconnecter la ville à la biosphère. La ville, pour l'instant, bon, voilà, c'est un truc un petit peu dans le vide. En tout cas en ce qui concerne ses relations en tant qu'écosystème avec le reste des écosystèmes. Il y a beaucoup de travaux à mener sur cette affaire. Et finalement, de dire qu'on veut rétablir un certain fonctionnement écosystémique en ville parce qu'on veut tirer des bénéfices des services écosystémiques, c'est une première étape dans la réflexion que nous devons avoir aujourd'hui. Mais au-delà de ça, il y a un véritable projet politique qui est de dire que la ville fait partie de la biosphère, ou de ce que certains appellent l'écosphère, et que l'enjeu, c'est de se donner les moyens de replacer l'environnement urbain dans le système général. On ne peut plus considérer que c'est quelque chose de détaché du reste du monde, ce n'est pas vrai, surtout pas dans un système où tout le jeu des contraintes change à toute vitesse. Et donc, il y a un véritable enjeu politique qui a tout à fait, je pense, à expliciter et assumer, c'est reconnecter la ville, la voir comme un élément parmi d'autres, du fonctionnement de la biosphère, sans pour autant évidemment abdiquer des caractéristiques propres, bien entendu, à la cité. Donc finalement, il y a une double approche, et je vais m'arrêter là. Il y a peut-être se mettre d'accord sur un projet politique, de voir la ville finalement comme un laboratoire du développement durable. C'est un lieu de concentration de moyens, de contraintes, c'est un véritable un laboratoire au sens scientifique du terme, sur lequel on peut expérimenter beaucoup de choses. Et puis il y a un projet politique qui est que si on doit aller vers effectivement un mouvement de réconciliation homme-nature, de coévolution homme-nature, évidemment, par l'impact qu'a la ville sur l'environnement et par la proportion de la population qui habite en ville, c'est évidemment là que ça va se passer. Ça va se passer en ville et ça va se passer dans les champs de maïs. Hein. C'est pas compliqué. Voilà. Les deux territoires à enjeu majeur pour la reconstruction d'un mode de développement un peu plus soutenable. Merci.
Merci, Luc Abadie.